Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Un bombardement sur un quartier, un tremblement de terre, une maladie. Et tout bascule et peut s'effondrer. Plus de travail, plus de maison, plus d'argent et presque plus d'amis. Oui, la vie et le bonheur des hommes sont une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Et quotidiennement, l'actualité nous le prouve. Ici, c'est la maladie qui va tenter de détruire toute une famille. Ce qui y arriverait si un être lumineux, une toute jeune fille, n'avait l'énergie, la ténacité, et l'amour pour tenir les siens à bout de bras, maladroitement parfois, mais à sa manière, discrète, obstinée, oublieuse d'elle-même, trop peut-être. Un très beau et très complexe roman intitulé « Un paquebot dans les arbres » dont l'auteur est venu nous rejoindre, Valentine Gobi. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Valentine Gobi, je dis roman complexe et ce n'est pas du tout lié à une quelconque difficulté de lecture car vraiment, on lit ça d'un trait, on a du mal à s'en arracher. Complexe car il y a selon moi plusieurs lectures.
Mm-hmm.
Vous êtes d'accord?
Oui, il y a plusieurs entrées, certainement.
Oui. Voilà, alors évidemment le début c'est une sorte de pèlerinage de Mathilde Blanc que nous allons suivre tout au cours de ce roman vers un sanatorium. Mathilde Blanc, sanatorium. Un rôle important également, le grand paquebot. Évidemment, on a pensé, tous ceux qui sont amateurs de films dont je suis, pensent au film allemand de Werner Herzog, Fitzcarraldo. Alors au départ, je me suis dit, tiens, un paquebot dans les arbres, je ne savais pas du tout de quoi vous alliez nous parler. Puis je pensais à ça, ça n'a rien à voir, mais le paquebot. Et quand on voit l'architecture de certains sanatoriums, on comprend. Vous pouvez nous dire juste un mot ?
Oui, bien sûr, mais je pense que les titres sont des portes à pousser. Voilà, j'ai envie qu'on soit intrigué par la porte et qu'on la pousse. Oui, alors les paquebots, c'est un peu comme ça qu'on appelait ces sanatoriums, en effet construits dans l'entre-deux-guerres, qui étaient des bâtiments spécifiquement voués aux soins. On a, à la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle, dans les grandes épidémies de tuberculose, notamment après la Première Guerre mondiale, eu recours en fait à des bâtiments qui jusque-là étaient des hôpitaux ou des centres de convalescence, mais qui n'étaient pas spécifiquement conçus pour la maladie. Dans les années 20 et 30, on a construit des bâtiments très impressionnants qui tenaient compte des spécificités de cette maladie-là, qui était extrêmement contagieuse, donc qui utilisaient des matériaux très particuliers qui donnaient pas prise aux bacilles.
Assez isolés aussi.
Hein. Isolés dans la montagne ou dans la nature. Oui. Là, évidemment, c'est dans la forêt. Et qui avait des terrasses en gradins destinées à accueillir en fait les malades toute la journée, en toute saison. Ils étaient allongés sur des méridiennes et prenaient la lumière parce que longtemps, ça a été le seul soin qu'on pouvait administrer aux malades. Et donc, ils avaient l'air de loin de grands navires qui voguaient en pleine nature.
Oui, et là, avec des passagers installés sur le pont.
Voilà, exactement. Et cette architecture fonctionnaliste, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire qu'elle est destinée vraiment à servir un but, trouve dans le sanatorium qui ouvre en effet ce livre une expression particulièrement splendide, puisque ça fait vraiment partie, ce sanatorium d'un cours, des fleurons de l'architecture sanatoriale. C'est trois immenses paquebots en réalité, dans la forêt, l'un pour les femmes, l'un pour les hommes et l'un pour les enfants, qui accueillaient 1500 à 2000 malades.
C'est énorme. Alors, dans votre livre, il y a déjà l'évocation d'une époque. Il faut resituer votre roman, c'est dans les années 60, que j'ai bien connu. C'est le portrait de la France. Et alors, effectivement, dans l'esprit des gens et des plus jeunes, évidemment, c'est les débuts des 30 Glorieuses. Pas le début, mais c'est les 30 Glorieuses. On est en plein dans les 30 Glorieuses. Et finalement, on garde le souvenir de grands événements. Il y en a eu des grands événements.
Bien sûr. Hein.
Bon, vous parlez de la fin de la guerre d'Algérie, du général de Gaulle, de tout ce qui se passe. Et justement, ce qui va se passer est d'autant plus choquant.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est toujours le problème de la synthèse historique. La synthèse historique, elle est faite de blocs homogènes qui sont faciles à retenir et à transmettre. Il y a toute une vocation pédagogique. On dit la Renaissance, on dit le Moyen-Âge. Mmh. On dit les 30 Glorieuses, mais les 30 Glorieuses, on peut les observer à deux niveaux, comme n'importe quelle réalité. Soit on est un peu distant, C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et on observe une façade d'immeuble qui a l'air assez homogène, avec une couleur sans nuancier. Et puis plus on s'approche, c'est-à-dire pour nous, dans le roman, alors l'historien fait un peu pareil, mais moi j'essaye de l'incarner dans des personnages, plus on remonte vers la source. Et plus on fait le mouvement vers la façade d'immeuble dont je parlais tout à l'heure, et on commence à distinguer les craquelures, les moisissures, ceux qui s'écaillent, ceux qui tombent. Et donc, tout d'un coup, cette façade n'est plus homogène. Alors, les Trente Glorieuses, ça n'est pas un bloc homogène. C'est une période qui a été un peu exceptionnelle dans notre histoire, c'est vrai, mais non seulement elle a laissé des gens à la marge, mais en plus, par ailleurs, tout ce qu'on en dit a mis beaucoup de temps, en fait, à s'installer. La sécurité sociale...
La sécurité sociale, dont on parle, justement, parce
qui est une
que
des héroïnes majeures du livre,
bien sûr.
Et de notre histoire, il faut bien le dire. C'est quand même peut-être une des mesures les plus égalitaristes du XXe siècle. C'est un vrai miracle rapporté d'Angleterre.
Oui, vraiment, quelque chose que... dont toute la population bénéficie maintenant.
Alors maintenant, voilà, c'est ça. Mais on a un petit peu oublié que ça s'est mis en place dans la durée. Et quand ce projet a été mis en place dans l'immédiate après-guerre par le Conseil national de la Résistance, il s'agissait de faire une caisse universelle. Il n'y a toujours pas une caisse, ça n'est toujours pas universel, mais bien entendu, c'est un progrès considérable. Or, à l'époque, on commence évidemment par le plus simple, les salariés. Il va y avoir un précompte à la source. C'est une cotisation prélevée par les patrons, voilà. Et ces gens-là vont être immédiatement bénéficiaires. Et évidemment, pour le reste de la population, et notamment les commerçants, puisque là, on est dans une famille qui tient un café dans un petit village dans le Vexin français, l'information n'est pas même complètement arrivée. Et évidemment, il faut se débrouiller autrement avec des assurances privées qui coûtent cher. Il y a un déficit d'information très fort.
En fait, on le voit
fort.
Aux États-Unis.
Oui, et on le revoit
dans
en France maintenant
pays,
un petit
d'ailleurs.
Peu, si je peux me permettre. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne peuvent plus, par exemple, aller chez le dentiste. Donc, évidemment, on n'est pas du tout dans la situation qui précédait la mise en place du régime de sécurité sociale aujourd'hui, mais on le voit se fissurer, et un petit peu à la façon dont il n'était pas encore accompli, justement, dans ces années 50 et 60.
Oui. Alors... On parle donc de cette époque, évocation de lieux. Et moi, je vois des lieux, vous venez de parler du Sanaa. Et je trouve que ça, c'est un thème. Évidemment, là aussi, on pense à Thomas Mann, mais c'est vrai que c'est...
Oh, mais Thomas Mann, c'est le sanatorium des riches.
Des riches, voilà, exactement.
On n'est pas du tout dans
le
même univers.
De la jeune fille, on dira, oui. Mais là, ce que l'on trouve, c'est un tas de gravats, il ne reste rien. Je me dis, comme après la guerre, en Syrie, que des ruines, 50 ans après... C'est un symbole, ça, non ?
Alors, ça fait même partie des vraies motivations pour moi à écrire. Ça fait longtemps que je travaille sur la mémoire oubliée. Ça fait partie vraiment, pour moi, des grandes raisons de me mettre à écrire et de choisir le roman pour compléter, on va dire, la démarche de l'historien. Il se trouve que là, j'ai entendu parler de ce sanatorium par une personne dont je mentionne le nom à la fin du livre, Élise Bellion, et que j'ai été très intriguée parce que ça me paraissait une œuvre d'une telle ampleur que j'avais très envie d'aller le voir. Moi, je suis en région parisienne, c'est-à-dire que je suis à une heure d'un cours. Et donc, je suis allée sur Internet et j'ai vu, en effet, les photographies extraordinaires de ce bâtiment quand il fonctionnait.
Je pense que je les ai vus sur Internet.
C'est bien possible, c'est très accessible. Oui. Et j'ai immédiatement, hélas, vu aussi à côté des photographies dont j'avais du mal à croire que c'était le même bâtiment. C'est pas seulement des gravats et des ruines, c'est un saccage, c'est-à-dire qu'il y a une destruction volontaire. Non seulement le bâtiment n'a pas été entretenu, mais ensuite, il a, je pense, été un lieu dans lequel on peut transgresser quand on est adolescent ou quand on a envie de passer une nuit dehors. Alors, il est loué pour des films d'horreur, cet endroit-là. On y joue des parties de softball. C'est extrêmement violent, en fait, de passer des images. C'est plus que ça. Le saccage est plus qu'une dénaturation. C'est vraiment une volonté de détruire. Et je me dis que ça procède souvent de l'ignorance. Or, les bâtiments en question étaient inscrits sur la liste des monuments historiques. Et donc, il y a quand même une contradiction dans les termes qui m'a beaucoup étonnée. Oui. Qui m'a intriguée, qui m'a attristée. J'ai donc
Et vous avez eu la bonne idée de nous en parler.
Et j'ai les mêmes vues, donc oui. Je suis allée le voir, mais je me suis fait accompagner par Élise Bellion. Alors la scène d'ouverture du livre, la montre, elle, évoluant dans ses gravats, en réalité, j'étais là aussi. Et à cette occasion, elle a été extrêmement sidérée, évidemment. Tous ses souvenirs d'enfance, son histoire personnelle sont remontés à la surface. Et ce que j'ai entendu, c'était avant tout, et c'est peut-être une autre entrée dans le livre, vous en mentionnez plusieurs, j'ai entendu surtout une grande histoire d'amour, une histoire familiale exceptionnelle.
Alors, on va en parler de cette famille. Avant, vous brossez également un portrait de la France profonde, ce gros village qui tourne autour, non pas de l'église, mais il y a l'église en général.
Hein, évidemment.
Mais surtout à cette époque-là, il y a le café qui est un lieu où il fait chaud, où on est accueilli, où on discute, on boit, on rit, etc.
On danse,
exactement. et puis, il y a cette famille, donc le cafetier, sa femme et ses enfants. Alors, une famille heureuse.
Ah, ils ont tout à perdre, oui.
Une famille heureuse. Alors, je me suis interrogée, moi. Alors, il y a le père. Comment les voyez-vous, vous, ce père ? C'est un héros.
Le père, c'est un drôle de personnage.
Oui, quand même. Hein.
Mais c'est un personnage extrêmement solaire, qui aimante tous les regards.
Séducteur.
Il a une sorte de... Oui, c'est un séducteur, mais il a une vraie générosité, je pense, une vraie joie de vivre, qu'il dispense sans compter. Et il a à la fois... Cette générosité-là de mettre à disposition tout ce qu'il possède
pour les autres
et en même temps il a du mal à donner à ses plus proches.
Exactement.
Et c'est très compliqué.
Écoutez, je vous remercie. Je suis heureuse de vous entendre dire ça parce qu'effectivement, il paraît tellement généreux. Il est poreux à toutes les peines et doué pour la joie. C'est ce que vous écrivez.
Hein.
C'est vrai qu'il est chaleureux, il est sympathique à tout le monde. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'il offre à ses filles, excepté Annie ? Parce qu'il y a même également le comportement avec Annie qui m'a un peu dérangée.
Oui, Annie, c'est la fille préférée, c'est celle qui le fait danser, c'est celle qui est jolie, qui a des robes qui tournent, c'est le premier enfant. Et puis Mathilde, qui est le personnage central du livre, Mathilde, c'est celle qui aurait dû être un garçon. Il y a eu un garçon qui est décédé, très jeune, très petit.
Et il appelle Mathilde mon petit gars, alors ça je le dis quand même.
Et elle arrive à un moment où il y a, alors je l'appelle au départ le garçon manquant. Si elle devient garçon manqué, c'est aussi parce qu'elle est le garçon manquant. Ce qui est beau chez ce personnage, c'est qu'elle en fait quelque chose. Elle est à la fois très frustrée et en même temps, elle construit autour de ce manque une personnalité
telluriques. Est-ce que c'est pas parce qu'elle avait
tellurique.
Ce manque qu'elle a dû aller de l'avant, justement ?
Alors, bon, je veux pas faire de psychologie, je sais pas si j'en ai les moyens, mais il est certain, évidemment, que la manière dont on nous regarde enfant participe de notre construction identitaire. Donc, le fait d'avoir été celle qui n'était pas attendue et le fait du coup de dérouter les regards de son père lui a fait prendre des risques absolument considérables, des risques vitaux. C'est une enfant qui se baigne dans la glace en plein hiver, qui marche sur les murs écroulés pour attirer le regard de son père. Elle fanfaronne, mais il y a une vraie sincérité dans sa démarche qui échoue.
Mais
qui échoue
temps,
pas
moi,
complètement
moi,
non plus.
J'ai quand même un peu de peine pour elle.
Bien sûr, mais c'est très dur.
Bon,
Je suis d'accord, c'est très dur. Et il y a une situation terriblement injuste. Mais c'est une jeune fille qui, au lieu de se détourner de son père et de lui reprocher ce désintérêt, en devient, comme le sont souvent d'ailleurs les petites filles, éperdument amoureuse. Et donc, loin de se détourner de lui, l'en aime davantage.
Oui, oui, on le sent, on le ressent. Et puis, il y a l'épouse. Et quand vous parliez d'histoire d'amour, alors il y a l'histoire d'amour qui noue tous ces êtres, mais il y a l'histoire d'amour entre le mari et sa femme. Et elle aussi, elle a sa dévotion.
Oui, et en même temps, c'est une femme très forte qui, je crois, sait aussi ce qu'elle gagne dans cette affaire. Elle a perdu beaucoup d'ambition qu'on avait pour elle dans sa famille en épousant quelqu'un qui n'avait pas d'éducation, qui n'avait pas fait d'études, alors qu'un autre avenir lui était offert. Elle a peut-être gagné parce qu'elle est plus vivante. Et peut-être que ce qu'elle a gagné là, dans le corps, dans des joies simples qui ne l'enferment pas dans une image qui était déjà préparée pour elle, c'est aussi une liberté qu'il lui offre. Je voudrais dire que c'est aussi des gens qui n'ont pas le temps de s'aimer parce que ils travaillent en permanence, ils ont des horaires de travail de 18h30, c'est-à-dire qu'ils ne partent jamais en vacances et ils travaillent 12 heures par jour, y compris le week-end. La maladie qui va les isoler dans le sanatorium pendant un certain temps va être leur première occasion d'avoir une vraie idylle. Oui. Parce que
C'est ça qui est étonnant d'ailleurs dans l'ouvrage. Et on comprend, tout d'un coup, ils se retrouvent tous les deux comme au début de leur mariage.
Mais comme ils ne l'ont jamais vraiment été seuls, parce que dès le début, en fait, ils ont acheté ce café et Polo a été confisqué. Leurs deux corps ont été confisqués par les autres, ouais. Joyeusement, mais tout de même.
Mais même au sanatorium, ils se débrouillent toujours pour être entourés.
Oui, mais Polo a besoin, je crois, de briller. Néanmoins, c'est quand même au sanatorium qu'ils ont le moins de responsabilité vis-à-vis du monde extérieur. Et donc, ils peuvent se concentrer, ne serait-ce que quelques heures par jour, et à un âge qui est quand même déjà un peu avancé. Enfin, ce ne sont pas des jeunes gens à leur amour.
Vous parlez du moment où Mathilde, là je franchis des étapes, Mathilde les ramène à la maison. Et il se retrouve seul, et il faut s'habituer au silence. Et on a le sentiment, moi j'ai eu ce sentiment que pour lui c'était très dur.
Évidemment, enfin c'est quelqu'un qui... Mais il a des points communs avec Mathilde. Mathilde n'arrive pas à vivre sans le regard de son père, il n'arrive pas à vivre sans le regard des autres. Ce sont des gens qui ont besoin d'exister par la reconnaissance qu'on leur donne. Alors, Mathilde, c'est celle d'un seul. Le père, c'est la reconnaissance de tous.
On va parler de Mathilde, parce que c'est un personnage extraordinaire. J'aimerais justement, si vous voulez bien, lire un extrait. C'est le bonheur en forêt, finalement. Et enfin, elle se retrouve seule avec son père. Et c'est un moment délicieux pour elle.
Et elle est toute petite fille encore, donc elle ose.
C'est à la page 27.
Ils écoutent. La forêt entre en eux par l'oreille. Les cliquetis d'insectes, les gouttes d'eau, le froissement d'une aile, les craquements du bois. Un oiseau. Ils ne pensent pas oiseau. Ils nomment intérieurement exactement chaque chant. Ils ont en commun cette langue concise. C'est lui qui la lui a apprise dans la petite enfance, l'index en l'air. Écoute ! Lâchant ensuite le nom de l'oiseau. Trois notes aiguisées ouvrant sur des groupettos suraigus. Le merle noir, un tri aigu et prolongé, la mésange bleue. Un signal court et répété en boucle, la mésange charbonnière, elle s'insinule. Une cascade de notes descendantes éclate en bouquet, le pinson. Elle retient tout du premier coup. Il dissocie les chants juxtaposés, détourne chacun à force de patience, de silence. Dans la forêt, le son précède l'image, prépare l'œil. Et Paul et Mathilde s'attendent, ayant identifié l'oiseau, à l'irruption de sa forme et ses couleurs singulières. Parfois, ils entendent un grand-duc, ses deux notes graves et rondes. Lui, il ne le voit pas. Il voit les arbres. Il lève la tête vers la canopée où vibre la lumière selon la densité des feuilles. C'est pourquoi il marche lentement. À un moment... Le père s'assoit sous un châtaignier, toujours le même. Ses branches à ras de sol masquent presque le tronc. C'est une vaste cloche verte, plus fraîche que la forêt. Quand son père est assis sous les branches, contre le tronc, qu'il sort son canif et se met à tailler un bout de bois, qu'il ne peut plus rien lui arriver, Mathilde explore les alentours. Les feuilles basses sont froides au toucher, les plus jeunes tendres et douces comme une eau. Elle retire les parties vertes autour des nervures, fait des squelettes de feuilles. Elle soulève les pierres, scrute les écailles des pins, les fissures dans les troncs des chênes, à la recherche de fourmis, de cloportes, de gendarmes, toute une vie minuscule, éphémère, lovée dans une écorce qui a 1000 ans. L'éternité commence avec les arbres. Là-bas, dans l'ombre, sous le châtaignier, le père et l'arbre se confondent, gris et muets. Ils ont des racines profondes, ils sont vieux et ne meurent jamais. Ils marchent. Les odeurs montent avec le jour, l'air tiédit les avive, les soulève. En lisière de forêt, le parfum des lilas, du muguet. Dans la forêt, l'odeur de terre noire, d'aiguilles de pin, de champignons. Ils ne disent pas champignons, ils les connaissent et les désignent. Cèpes, girolles, morilles, trompettes de la mort. La rivière sent la mousse. Il la devine entre les arbres.
Voilà un très beau passage, un très beau partage avec son père. Un moment intense, d'une grande beauté, quelque chose de vraiment... Comment dirais-je ? Pourquoi avez-vous raconté ça, finalement, ce passage ?
C'est un moment apaisé. C'est un moment, en effet, où ils existent en dehors des autres. C'est un moment où il n'y a pas de mots, mais tout est sensation. Et ces sensations-là sont complètement partagées. Il y a une fusion dans l'expérience de la nature qui passe par tous les sens, par l'oreille, par le toucher, par la vue, par le goût, et qui se passe d'explications. Il y a là une évidence, quelque chose de réconcilié, de suturé en fait, qui est une sorte de nourriture primaire pour cet homme et cette petite fille.
Oui. Alors cette petite fille va se révéler à travers un drame, parce que le drame c'est la maladie. Et finalement le drame va être une succession de... Je dirais de dégringolade, je ne sais pas quel mot on pourrait dire.
Oui, mais c'est vraiment une spirale de dépossession, vous avez raison. C'est-à-dire que la première tragédie entraîne irrémédiablement d'autres jusqu'au dépouillement total.
Au dépouillement total.
Et, y compris perdre ses enfants, ce qui est quand même probablement
La perte des enfants, la perte de l'entourage. Il y a un regard désenchanté aussi sur les amitiés de bistrot, sur les amitiés, sur les copains, il y a ça aussi.
C'est-à-dire, moi ce que j'ai essayé de restituer, c'est le sentiment des douves. C'est ça que... C'est
l'expression le sentiment des douves.
Ouais, c'est comme ça que je l'appelle dans le livre. Mais c'est-à-dire cet espace qui se creuse et qui est infranchissable famille qui est sur un îlot.
Excusez-moi, mais ils ont peur de la...
Oui, alors j'allais y venir. Il y a en effet un îlot qui se constitue, qui est cet îlot familial et les autres. Et un abîme... incompressible entre eux et les autres, alors qu'ils ont été justement ce point de ralliement. Et d'où ça vient, et c'est là que c'est très important, de la même façon que je disais, attention, l'histoire est faite de blocs sur lesquels on se retourne, il faut s'en rapprocher. Je crois qu'une des fonctions du roman, c'est de revenir dans le temps présent. Et si on revient dans le temps présent, et si on n'aligne pas seulement des dates, qu'on n'a pas en tête, par exemple, simplement que l'antibiotique étant arrivé en 47, évidemment, les gens n'avaient plus peur, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe, parce que... En effet, cet antibiotique découvert en 44 aux États-Unis, la streptomycine, est arrivé 3 ans plus tard en France. Et c'est vrai que ça a révolutionné le traitement de la tuberculose. Mais le temps que les gens en prennent conscience, qu'ils donnent de la crédibilité à cette nouvelle, imaginez aujourd'hui qu'on propose un vaccin contre le sida. Vous croyez que du jour au lendemain, les gens cesseraient de se protéger ?
On a peut-être
sûrement
plus de sources d'informations déjà qu'eux, mais enfin...
Alors en plus, oui, vous avez raison. Oui. Mais en tout cas, il y a une histoire des mentalités qui est plus
profondément ancrée
que celle du progrès scientifique. Oui. Et les images qu'avaient les gens quand on pensait tuberculose étaient horrifiantes. Il faut voir ce que c'était qu'un corps qui était attaqué par la chirurgie. Oui. La chirurgie thoracique a été un progrès déjà extraordinaire, qui a permis quand même de sauver des vies, mais était... incroyablement mutilante. Les gens perdaient des parties complètes de leur corps. La résection des côtes faisait des trous dans la cage thoracique qu'ils comblaient avec des morceaux de tissu. Il fallait voir aussi, c'est très impressionnant, que ces rejets de sang dont on a entendu parler dans la littérature, mais qui étaient évidemment des images terrifiantes. Et donc les gens avaient en tête, comme ça, des images de mort certaines qui les tenaient à distance. C'est ce qu'on a appelé la peste blanche, la phtisie encore plus anciennement, mais la peste blanche, et ça dit bien, je crois, la terreur que les gens en avaient. Et donc, ils ne savent pas bien encore cette histoire d'antibiotiques. Ils ont tout un passé comme ça, mémoriel, qui remonte. Ils savent que c'est très contagieux. Et donc, ils sauvent leur peau, les gens. Oui. Ils sauvent leur peau.
Valentine Gobie, nous allons faire une petite pause musicale et nous reprendrons ensuite.
Une photo, une date. C'était n'y pas croire, c'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre, la vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre, oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. Jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêvant des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir. Encore une heure, un peu de nous, un rien de tout, un soir.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Nous retrouvons Valentine Gobi et nous retrouvons Un paquebot dans les arbres. C'est le titre de son nouveau roman édité chez Actes Sud. Paquebot dans les arbres. Bon, ben écoutez aux auditeurs de se souvenir de quoi il s'agit. Évidemment, c'est un sanatorium. Ce sont des sanatoriums, des lieux qui ont existé pendant longtemps et qui n'a pas eu un ami, du moins dans ma génération, qui s'est retrouvé dans un sanatorium. Et c'est vrai que ce que vous disiez précédemment, Valentine, c'est que finalement, dans l'esprit des gens, et quand on voit les cimetières sur la Côte d'Azur, par exemple, tant de jeunes gens qui ont été, qui sont
à Valoris notamment.
Oui, à ouais. Valoris, exactement.
Ouais. Je suis de là-bas, moi, vous savez.
Ah bon, et à Menton,
je suis de Grasse. Oui,
Menton.
Il y a beaucoup de sanatoriums en bord de mer.
Et quand on voit les cimetières, c'est impressionnant. Tous ces jeunes gens. Alors eux, c'était des familles fortunées, ce qui voulait dire qu'on essayait par d'autres moyens de les sauver, mais enfin, ça voulait dire aussi qu'il y avait énormément de morts.
Mais c'est là que la maladie est très égalitaire. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai que riche ou pauvre, évidemment, vous vous soignez dans de meilleures conditions lorsque vous aviez de l'argent. Il y a d'une part le sanatorium de Thomas Mann et puis d'autre part celui de Thomas Bernhardt. Et là, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Mais au niveau de la contagion, je veux dire, la maladie est très égalitaire. Il suffit que vous absorbiez une gouttelette de salive qui est en suspension dans l'air 4 mètres plus loin que la bouche qui l'a soufflée et qui va y rester quelques secondes pour que vous attrapiez la tuberculose. Voilà. Donc ça touche absolument tout le monde. Plus on vit en proximité, plus c'est compliqué. Mais ce n'est pas une maladie de classe.
Donc cette peur de la contagion que vous évoquiez juste avant notre pause musicale, de la part de l'entourage, même des amis sur lesquels on pensait pouvoir compter, on devient des parias.
Et oui, et alors ce mot paria, il est très important. Je fais la différence entre des exilés et des parias, puisque les exilés, ce sont des gens qui... Ce sont des gens qui partent, ce sont des gens qui quittent un territoire. Les parias, ce sont des gens qui restent et qui sont seuls au milieu des autres. Ça, c'est la vraie étymologie du mot, qui est un mot indien au départ. Et donc, cet isolement au milieu des autres est probablement la pire sanction. C'est une vraie souffrance. Ça n'est pas seulement l'éloignement, c'est vraiment la solitude.
Oui. Oui, oui. Alors justement, c'est un regard désenchanté sur les gens du village qui accouraient chez eux, qui pour faire la fête, pour demander de l'argent, parce que
aussi, oui.
Polo,
oui.
Le père, aidait beaucoup de gens, vraiment. Oui,
la caisse du café était à disposition.
Voilà, ce qui explique aussi qu'il n'avait pas trop d'économie non plus.
Absolument.
Voilà, oui. Et puis finalement, tout d'un coup, tout disparaît, sauf, il y a Léon, l'ami de toujours, qui reste, malgré tout,
oui.
Si je ne me trompe pas.
Mm-hmm.
Et puis, Jeanne la Simplette, celle qui enchante l'existence. Alors, beau portrait également.
Oui, parce que Jeanne, elle a une sorte d'amour inconditionnel qui brave tout. C'est celle qui n'est pas comme les autres, celle qui est un peu au fond de la classe.
Et elle va aux choses les plus importantes.
Et elle choisit de s'asseoir à côté de Mathilde le jour où le banc est déserté. Et elle ne va plus quitter cette place. C'est une jeune fille qui a une sorte d'extrasensibilité au monde, qui est comme une très jeune enfant, mais qui a une intelligence de l'autre absolument stupéfiante et une générosité sans borne. Alors c'est la fille d'une famille bourgeoise du village, une des quelques familles bourgeoises, avec un père qui est cadre chez Renault à Flins, qui est juste à côté. Et donc elle franchit tout. Elle franchit la barrière sociale, elle franchit la barrière de la maladie.
Et puis
elle reste l'amie indéfectible.
Eux savent qu'elle est vaccinée. Elle a été vaccinée.
Alors, elle se fait vacciner plus tard dans le livre.
Ah oui, plus tard, oui.
Et c'est presque un petit pincement au cœur, le jour où Mathilde se rend compte qu'elle revient avec son petit point rouge au bras. Et en même temps, elle se rend compte aussi que les parents sont à la fois pragmatiques et généreux, alors qu'ils n'adressent pas beaucoup la parole à Mathilde. Ils ne s'occupent pas de cette relation-là entre ces deux enfants. Mais quelque part, c'est une façon pour eux de protéger cette relation. Mmh. En vaccinant leur fille, ils ne l'éloignent pas, ils protègent cette amitié à laquelle ils ne prennent pas part. Il y a vraiment un fossé social très important, mais c'est un cadeau très discret à cet amour d'enfant.
Vous parlez de discrétion, je me disais aussi que dans cette famille, il y a le silence, il y a une grande pudeur,
oui.
Peut-être de l'orgueil aussi. Préserver l'image que donne cette famille.
Moi, je dirais pas de l'orgueil, non. Je pense vraiment que c'est des gens...
Ah, mais l'orgueil, ça peut ne pas être négatif,
ouais.
Hein, non ?
Alors, de l'amour propre, de la fierté ?
La fierté, allez.
Oui, il y a peut-être un peu de ça, mais oui, il y a de toute façon beaucoup de pudeur. C'est des gens qui n'ont pas accès au langage de la même façon que les autres. Le jour où ils vont devoir s'écrire des lettres, parce que c'est le seul lien qui les maintient ensemble, parce qu'ils sont dispersés entre familles d'accueil, sanatorium, et donc, y a les jambes et il y a les lettres. C'est tout ce qu'on peut faire. Pour la première fois, ils doivent s'emparer du langage pour se dire les choses, pour exister, puisque leurs corps sont séparés. Et ça, c'est une drôle de conquête que celle du langage. C'est très important, le langage, dans ce texte, parce que c'est par la langue et c'est par l'arrivée de nouveaux mots que Mathilde va comprendre que ses parents sont malades, les mots bacille, sanatorium, pleurésie. C'est par la langue qu'ils vont asseoir... la solidité de leur amour dans ces lettres maladroites, mais qui existent, qui sont des traces. Moi, j'ai eu accès à ces lettres, à ces vraies lettres de la vraie vie, qui sont des preuves d'amour. Et puis, la langue, c'est aussi ces mots de la guerre d'Algérie qui vont arriver jusqu'à Mathilde en prenant un sens neuf et lui donner une sorte de force supplémentaire, parce que soudain, son combat individuel devient aussi... existe sous forme d'un combat collectif. Qu'est-ce que c'est qu'être indépendant ? Qu'est-ce que c'est que lutter pour la reconnaissance ? Voilà, dans la guerre d'Algérie, une langue est brassée qu'elle peut faire sienne pour tenir debout. Voilà. Donc je crois que les mots sont rares, mais ont une force terrible.
quand vous dites l'importance du langage, je pense à, en vous écoutant, je me dis qu'en effet, même pour lutter contre la violence, le langage est important aussi. Ceux qui sont violents sont souvent ceux qui n'ont pas de mots.
Oui, oh ben ça bien sûr, il y a d'ailleurs une association qui s'appelle Mille Mots et qui a fleuri par beaucoup en France, le but étant de donner à des jeunes qui souvent ont un vocabulaire en dessous de 250 mots, 1000 mots pour éviter de se taper dessus. Oui, bien sûr.
Je peux dire à nos auditeurs que en fait, vous êtes occupée d'associations, vous avez été très active et dans beaucoup d'endroits en Asie, à Hanoï, Manille, j'ai lu ça, vous êtes occupée d'enfants des rues, en particulier dans ces endroits-là, c'est ça.
Oui.
Ça donne une sacrée expérience.
Hein. Bah, l'enfance et la jeunesse sont passionnants. Oui, ça donne une expérience. Ça montre aussi vraiment que c'est une relation qu'il faut sans cesse renouveler. Je reste très proche des enfants. J'ai été professeure en collège et puis j'écris beaucoup pour la jeunesse. Donc, je suis très souvent dans les classes et pas dans les classes les plus nantis. C'est pas du tout là que c'est intéressant d'aller, justement. Et bien sûr, conquérir la langue... c'est vraiment un moyen d'entrer dans un dialogue pacifique avec l'autre. C'est une façon de le comprendre et de se faire connaître qui est douce. Et il y a un vrai problème d'accès au langage, absolument, chez les jeunes aujourd'hui, mais bon, ça date pas uniquement d'aujourd'hui.
Alors, il y a un passage très fort... où on comprend la souffrance de Polo qui finalement ne parle pas. Il esquive toujours. Tout ce qui n'est pas joie, gaieté, dynamisme, il ne fait pas front.
Mais c'est un enfant, Polo.
Oui, voilà.
Polo, c'est un enfant. Mais combien d'hommes... Vous avez des frères et des enfants peut-être aussi, et un père peut-être, les hommes. C'est ce qui est magique chez cet homme. C'est un enfant, c'est-à-dire qu'il a cette espèce de capacité de rebondir sans cesse sur le réel. Et lui-même est un enchanteur. Et en même temps, comme c'est un enfant, il est irresponsable. Il a du mal à voir la réalité sans vouloir absolument la magnifier par une espèce de regard magique sur les choses. Donc, il refuse en effet d'accepter qu'il est malade, il refuse d'accepter qu'il va mourir.
Et à un moment donné, Mathilde lui en veut. À un moment elle voudrait lui faire mal. Soudain, elle a peur qu'il y ait une borne à son amour pour son père, que sa méchanceté tue l'amour qu'elle lui porte. Il faut qu'elle sauve cet amour, qu'à la façon de Jeanne maintenant et de son père du temps du Balto, elle enchante l'existence. Mathilde, c'est... quelqu'un qui... C'est l'élément fort, finalement, de la famille.
Ah oui, bien sûr. Elle a des responsabilités, alors qu'elle se donne seule. Je veux dire, en même temps, c'est un choix de sa part. De la même façon que la maladie va permettre aux parents de vivre une première idylle, elle va aussi accorder une autre place à Mathilde. Et elle l'accepte aussi parce que, tout d'un coup, elle tient son père entre ses mains. C'est beaucoup trop, évidemment. C'est beaucoup trop de responsabilité. On frôle le sacrifice. Et c'est justement...
Oui, quelle abnégation pour cette jeune fille. Hein. Vraiment, c'est...
Alors, oui, tant qu'elle y trouve quelque chose, c'est-à-dire tant qu'elle comprend que c'est éventuellement une façon, en effet, d'exister auprès de son père. Mais heureusement, elle va aussi rencontrer des gens qui vont être des portes ouvertes sur autre chose, sur... un monde qui est plus vaste que celui et de sa famille et de La Roche-Guyon. Je pense au personnage clé de la directrice, du lycée qui va lui ouvrir les portes du monde et d'elle-même et lui donner le courage aussi d'œuvrer pour elle-même.
Oui, et de toute façon, elle a en elle ce désir d'être l'émancipation, de liberté. Il y aura d'autres éléments. Évidemment, à un moment donné, elle va...
Elle reprend son souffle.
Voilà.
La fin du livre, c'est une Mathilde qui reprend son souffle.
Tout à fait. En tout cas, merci, parce que finalement, bon, vous décrivez bien l'atmosphère de ce milieu populaire où on rit, on parle, on a envie de faire la fête, de danser, la danse. C'est important dans ce livre.
C'est fondamental.
Et en même
temps,
vous n'occultez
corps,
pas... vous n'occultez pas les mesquineries, ce qu'on peut trouver. Ce n'est pas une société idyllique, mais c'est une société, ça vit, ça pleure. Et puis, ça s'en sort, finalement.
Ben oui, moi j'aime les personnages en résistance, ce sont toujours les sujets centraux de mes romans, et Mathilde à bien des obstacles, mais ce qui l'intéresse, c'est le saut.
Un grand merci, Valentine Gobi. Il s'agit de Un paquebot dans les arbres, édité chez Actes Sud. Au revoir.
Merci.